Radio Scénique, Éric Dauterre, bonjour. On l'a souvent dit ici, la richesse de l'offre théâtrale à Paris est telle que d'un soir à l'autre, on passe d'une comédie à une tragédie, d'un classique à un texte contemporain. Notre tâche ici, enfin du moins on essaye, c'est de vous donner un aperçu de ce qui nous plaît dans ce paysage foisonnant du spectacle vivant. Et on essaye de vous proposer un aperçu sous forme de deux pièces qu'on essaye de mettre en lien. Mais nos deux spectacles de ce jour semblaient ne rien avoir l'un avec l'autre. D'un côté, on a un huis clos familial où le fiel entre deux belles familles se déverse autant que le vin dans les verres. Et de l'autre, il y a une apparente conférence didactique nous permettant de gagner à coup sûr les élections. Alors, quoi de commun entre « Vous permettez », spectacle actuellement présenté au Funambule Montmartre, et « L'art d'avoir toujours raison » que l'on peut voir au Théâtre Tristan Bernard ? Eh ben, on a un peu réfléchi, on se dit qu'il y a d'un côté une parole familiale libérée par l'hostilité latente entre deux familles rassemblées qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et de l'autre part, une parole corsetée, neutralisée à vocation consensuelle et politique. On reçoit donc aujourd'hui Manon Rony, autrice et metteuse en scène de Vous Permettez, et ses comédiens et comédiennes Salomé Mandelli et Julien Eto. Et pour l'art d'avoir toujours raison, ce sont les co-auteurs Sébastien Lavinia et la comédienne Maya Le Fourne qui seront avec nous dans la seconde partie de notre programme Les non-dits et les trop-dits. Voici en résumé le programme de cette 26e émission. Pardon. Vous avez le programme. Éteignez donc vos portables et baissez la lumière. Voici venir Radio Scénique.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Une table dans un restaurant, deux couples qui se réunissent et c'est le jeu du massacre qui débute. Les trop-dits. Comme un trop-plein, c'est la troupe de Vous Permettez qui l'incarne, bande-annonce.
Léonore ne nous a jamais parlé de votre fils et soudainement, elle veut qu'on le rencontre et qu'on rencontre ses parents. C'est un peu rapide, non ?
Pas tellement, après 2 ans...
Pardon ?
C'est quand même génial ! Je garde le secret depuis tellement...
Et sinon, il a des frères et sœurs ?
Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ?
Vous voulez nous dire quoi ? Que notre fils n'est pas assez bien pour votre fille ?
J'ai pas dit ça non plus.
Bah quoi, c'est pas honteux de demander comment les gens gagnent leur vie quand même.
Oui, mais gentiment, là on dirait Heinrich Hitler.
Personne n'a dit qu'il fumait des pétards.
Il fume pas de pétards.
Personne ne l'a dit.
Parfois c'est bien de savoir ce que pense l'ennemi. Sinon on croit que tout le monde est d'accord avec soi.
Quand je veux savoir ce que pense l'ennemi, je lis le Figaro.
Vous avez raison. Le plus important, c'est que nos enfants soient heureux.
C'est bien notre fils qui a colonisé votre fille.
Manon Rony, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, rapprochez-vous tout petit peu du micro, voilà. Vous êtes l'autrice et la metteuse en scène de cette hilarante comédie familiale. Enfin, familiale, c'est un peu exagéré parce que ce ne sont pas deux familles, ce sont deux belles familles. Ils ont environ 45...
Alors la plus jeune 40... a 45, entre 45 et 60, enfin, de les personnages, hein. Eux ils ont 20 ans, 25 ans tous. Mais...
Les comédiens, toujours, ouais, les comédiens. Ont toujours 25
Exactement.
Ans et les dames sont toujours des demoiselles.
Bien sûr.
Alors racontez-nous un petit peu l'intrigue, on a entendu un petit peu, alors c'est difficile de faire passer l'image à la radio,
Bien
mais
sûr.
Ça se passe dans un restaurant, il y a une petite musique douce et on attend les enfants.
On attend les enfants qui ont convoqué leurs parents pour un dîner à 6, mais les parents arrivent avant
alors,
et ils ne se connaissent pas du tout.
Et ça picole.
C'est vrai.
Ça boit.
Parce que ça délie les langues, évidemment.
Oui. Alors, l'alcool, comme les relations entre les deux familles, c'est le carburant d'un futur incendie qui va se déclarer. Il ne manquait plus qu'à allumer la mèche pour le jeu de massacre. Le jeu de massacre a un peu lieu. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette pièce ? Parce que finalement, la famille, c'est source d'inspiration sans limite
éternelle,
pour le théâtre.
Ouais. C'est vrai. Et moi, je n'avais pas l'impression d'avoir vu, mais je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, le rapport du parent à sa bru ou son gendre. C'est-à-dire que je trouve qu'on voit plus souvent le rapport des conjoints sur les beaux-parents, mais à l'inverse, un peu moins. Et je pense aussi que c'est une grande surprise de voir avec qui notre enfant, moi les miens ils sont petits, mais je me dis, mais on croit qu'on les façonne un peu, que bon, on leur dit un peu comment penser, quoi écouter, etc. Et puis ils arrivent avec d'un seul coup quelqu'un qui ne nous ressemble pas du tout. Et ça, enfin, moi je vous dis, c'est pas le cas, mais je me dis que ça doit être, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé, me dire, mais voilà, on arrive avec un type qui est à l'inverse, quoi.
Julia Eto, Salomé Mandelli, par le hasard des disponibilités, il se trouve que c'est un des couples qui est présent. Vous êtes le couple Baba Cool. Vous, Salomé, vous êtes enseignante en lettres. Hein.
Exactement.
Et vous, Julien, vous travaillez dans une boîte d'informatique. Hein.
Oui.
Et vous êtes cool tous les deux. Hein.
Est-ce qu'on est cool? Est-ce qu'on se donne
cool
une image?
Gauche,
ouais. Est-ce qu'on se donne une image aussi? C'est ça la subtilité de l'écriture, je trouve, de Manon, c'est que oui, ils sont cool, mais est-ce que vous qui avez vu la pièce, est-ce qu'ils sont vraiment cool? Ils ont quand même aussi leur concept de vie, mais en tout cas, en ce qui concerne mon personnage, il se donne une image comme ça, mais il a quand même aussi des frontières, des préceptes qu'il veut défendre. Donc voilà.
Votre personnage, votre Manon René, votre metteuse en scène, n'était pas d'accord quand je lui disais hors micro que c'est un personnage un peu bené. Il est content de la vie, quoi. Tout va bien. On se demande si avant d'avoir bu, il a pas un peu fumé. Hein.
Peut-être, oui, il n'a pas de limite là-dedans. Mais non, mais c'est pas... On parle d'alcool, certes, mais c'est de l'alcool mondain. Alors voilà, on n'est pas du tout dans l'alcoolisme. Je pense qu'en tout cas, moi, c'est plutôt un personnage que j'ai vu et pour se détendre et parce que aussi... Ça fait un peu le mec cool, un peu borderline, mais effectivement, il a cette image-là.
Mais Benet est content de vivre, c'est pas pareil.
Oui, hein. Pardon, oui, j'ai pas
parce
répondu
que
à
content
ça.
De vivre, oui, ça c'est vrai que il est très joyeux, il prend le bon côté des choses. Après, je pense qu'il avait pas envie de venir non plus. Hein. Mais par contre, Benet, non, il est ingénieur en informatique quand même, il gagne très bien sa vie, il
oui,
a beaucoup de culture.
Alors il le cache justement, parce qu'on va en reparler tout à l'heure, mais c'est une pièce dont les lignes bougent. Vous, Salomé Mandelli, à côté de ce personnage qui est heureux de vivre, vous incarnez un petit peu la rigueur de la prof. Hein.
Et en même temps, le personnage que j'incarne est aussi prof de yoga, donc elle a aussi quand même un côté très cool, très détendu, très...
Détendu coincé.
Oui, on peut dire ça, détendu rigide, détendu autoritaire, je pense.
Parce que finalement, là, ça parle beaucoup d'enfants, mais vous venez avec votre grand-enfant, avec votre mari, que vous traitez comme un grand-enfant.
Effectivement, je pense que le personnage de Laura a deux enfants, voilà, son mari et son enfant.
Comment ça se fait, Manon René, comment ça se fait que la famille inspire autant de pièces? Alors, vous allez me dire, ça remonte à l'Antiquité où ça fourmille d'histoires d'inceste, de meurtres intrafamiliaux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on a autant de choses à dire sur la famille?
Il faut prendre comme exemple quand on revient après les vacances de Noël. Alors, soit dans les écoles ou au boulot, tout le monde se raconte comment ça s'est passé ton Noël. Et on a rarement le « Ah, ça a été, tout s'est bien passé ». On a quand même toujours le « Je me suis engueulée avec ma belle-mère, ah, ma tante m'a fait suer ». Enfin, on a toujours ce genre d'histoire. Donc, je pense c'est quoi le fameux proverbe « On ne choisit pas sa famille ». Donc, évidemment que c'est source, surtout pour les comédies, ben, c'est source de... Bon, il y a Festen aussi, hein, question pas comédie, mais...
mais quand même drôle.
De faire plein de gens, de plein de choses qui se rencontrent et qui ne devraient pas se rencontrer, parce qu'effectivement, c'est pas les gens avec qui on aurait choisi de passer la soirée.
Ah,
forcément.
Il faut pas oublier l'autre couple qui est composé de Pénélope Perdereau et Xavier Thiam.
Oui.
Alors eux, lui est chirurgien dentiste,
mm-hmm.
Et elle, elle a élevé leurs trois filles.
Ouais. Ouais, et ils sont pas non plus. Enfin, j'espère qu'ils sont pas dans des stéréotypes non plus. Alors, en fait, pour moi, c'est quatre personnages qui assument qui ils sont. Et c'est surtout ça, c'est qu'ils sont pas là pour faire des faux semblants. Ils s'en fichent un peu de ce qu'on va penser d'eux. Donc lui, il dit assez clairement qu'il aurait espéré mieux. Le personnage de Xavier Thiam, qui joue super bien, ce mec,
il est très rigide pour le coup. Lui,
il est rigide, mais
très dans ses positions.
Voilà, mais il s'en cache pas. Il dit ouais, non, je suis désolé de vous le dire, mais j'aurais préféré qu'elle soit avec un mec qui nous ressemble le plus.
Et c'est pour ça que mon personnage, il est pas Polo, il n'est pas si bené que ça. C'est-à-dire qu'il se rend compte de ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de le jouer. Il se rend compte de la rigidité un petit peu. Et justement, il va, pour provoquer un petit peu d'interaction, parce que justement, ça l'ennuie un peu d'être là ce soir-là. Donc, il a envie de créer quelque chose, qu'il se passe quelque chose, tant qu'à faire d'être venu. Et du coup, il va, à l'inverse, un petit peu, faire le mec qui est plus bête qu'il n'a l'air, pour provoquer des réactions. En tout cas, moi, c'est comme ça des fois que je le vois et ça m'amuse beaucoup de titiller mon camarade de jeu, Richard, sur des trucs où je sais qu'il va, dans l'extrême, entendu, le truc des pétards, voilà, il ne va pas dire non, il ne fume pas, il ne va pas défendre son fils, il va le provoquer en disant Ou alors, il y a une réplique que j'aime beaucoup parce qu'ils disent bah, nous, on aurait aimé que vous soyez un peu plus exigeant. Moi, je dis bah, non, nous, on n'a pas besoin d'être exigeant. Notre fils nous ramène une chirurgienne.
Oui, vous avez, on vous a entendu voilà. Dire notre, pardon, notre fils colonise votre fille.
Oui.
Tout à l'heure dans l'extrait, ça dit tout.
Bah, y a tout un jeu sur. Bah, voilà, ils vont.
Salomé Mandelli, comment est-ce qu'on arrive à trouver la nuance justement pour éviter la caricature de ces personnages qui sont assez campés, hein, ils sont assez identifiés dès le début. Comment est-ce qu'on arrive à trouver cette nuance-là?
Alors moi je pense que ça vient déjà de l'écriture qui est déjà très fine et très voilà, en relief. C'est pas des personnages manichéens, il y a vraiment, ils ont tous... une humanité, ils ont tous... Enfin, voilà. Et donc, je pense que de par l'écriture et de par la mise en scène, c'est comme ça qu'on va réussir à mettre du relief et à insuffler dans ces personnages des nuances qui permettent que ça ne soit pas des blocs et des caricatures de personnages.
Alors, Manon Reny, l'écriture, c'est vous, la mise en scène, c'est vous. Et votre comédie, à vous, elle est un peu à part parce que les lignes bougent et les idées, les a priori qu'on se fait comme spectateurs, ils sont un peu mis à mal parce que les lignes flottent. Hein. Il y a des alliances. On se dit au début, voici deux couples fort bien constitués qui vont très bien les uns avec les autres. Et puis petit à petit, il y a des alliances. On va pas tout dire ici. Il y a des alliances qui se font et qui se défont. Les régies de droite sont pas forcément ce qu'on pense et les cools de gauche. Ah, c'est pas forcément ce qu'on
pense.
Personne
n'est de droite. Hein. Moi, j'ai fait une pièce où personne n'est de droite.
Ah, Richard, le chirurgien.
Bah, pas du tout, il dit l'ennemi, c'est le Figaro.
Oui, mais. Non, non. Alors, il y a tellement de nuances qu'on a l'impression qu'il est ironique.
Ah ouais, non, mais moi, mes amis qui sont chirurgiens à l'hôpital sont de gauche. Alors, parce que voilà. Pour être à l'hôpital public, il faut
vous
donner
une
de gauche.
Vous donnez un exemple de votre écriture. Vous lancez le positionnement socio-culturel. Hein. Il est chirurgien dentiste. Mais au moment où sa contrepartie masculine, donc on a bien compris que lui est le père d'une fille qui est chirurgienne, qui a 35 ans, qui va annoncer, c'est le but de la soirée, hein, qui va annoncer qu'elle sort avec un garçon qui n'a pas vraiment d'idée sur son boulot de 20 ans.
Oui, 25.
25, pardon.
Ouais, ils ont 10 ans d'écart presque. Ouais.
Il réagit un petit peu de manière un petit peu tendue.
Il n'est pas content,
il le dit. Et finalement, ça l'amène à dire à sa contrepartie masculine, mais vous savez, moi je ne suis pas chirurgien dentiste, parce qu'on lui renvoie son statut social. Il dit, mais moi je suis chirurgien dentiste à l'hôpital.
Oui, à l'hôpital public, oui.
Voilà.
Il le précise, oui.
Comment est-ce qu'on arrive... Il y a un tel poids de la comédie, Fedot notamment. Comment est-ce qu'on arrive à rebattre les cartes et à introduire une nouvelle écriture de la comédie?
Mais qu'est-ce que c'est gentil déjà comme question? Il y a de la gentillesse dans votre question déjà.
C'est pas intentionnel.
Ben ouais, je vois ça. Non, merci. Je sais pas, j'ai pas fait exprès. Si c'est le cas, en tout cas, ben, tant mieux parce que c'est génial. Mais je sais pas, moi je sais ce qui me fait rire. C'est vrai que c'est pas fait d'autre, mais j'adore. Je respecte, mais c'est vrai que c'est pas. Je pense que gauche droite, ça aurait été, bah ça a déjà été fait et très bien fait. J'en fréquente pas beaucoup des gens de droite, alors je peux pas trop écrire sur eux parce que je les connais pas. Donc ça me paraissait plus logique. Je trouve déjà qu'ils ont une différence d'âge. Elle est chirurgienne et lui, il est graphiste en freelance. Je trouve que c'était beaucoup de rajouter. Je pense que deux personnes, quand elles se mettent ensemble, il faut quand même qu'elles aient quelques points communs. Et c'est pour ça que, pour moi, ces deux couples de parents, ils ne sont pas si différents que ça.
On est avec Manon Reny, Julien Eto'o et Salomé Mandelli. On parle ici de Vous permettez.
とても行かれた娘で、そこが付け目なのさ。だけど礼儀作法は君も知ってるから、娘さんのパパに挨拶に出かけた。ちょっと失礼無視。 お宅の嬢さん貸してください笑っていないで ちょっと失礼無臭おとなしくします約束しましょう身は守りますよそうですあなたの若い日のように
Radio Scénique par Éric Dauter. Le théâtre sur Aligre FM.
Alors, comme on peut l'entendre à cette musique sous ma voix, on parle de vous permettez votre comédie, la comédie que vous mettez, la comédie que vous avez écrite et que vous mettez en scène, Manon Rony. Et on est avec Julien Aitou et Salomé Mandelli, deux des comédiens de cette comédie fort bien écrite et interprétée. Manon Rony, dans votre texte, vous laissez une grande part au jeu. Et on a l'impression que vos comédiens, dont deux sont présents, se régalent parce que c'est une espèce de ping-pong. Alors on va leur demander leur avis. Comment est-ce qu'on arrive à instaurer cette espèce de ping-pong verbal? Alors qui veut s'exprimer en premier?
Je pense que ça vient de la direction d'acteur de Manon Rony, qui en fait a un côté très chef d'orchestre. En fait, c'est-à-dire que quand elle écrit, elle sait déjà comment elle va mettre en scène. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui est au millimètre près, qui est extrêmement prévu. Et du coup, ça va se passer par les répétitions, on va caler des choses vraiment, à la seconde près. Et du coup, une fois que c'est tellement bien calé et installé, on va réussir à s'amuser et à se libérer. Et du coup, c'est par le fait que c'est... Pardon, je me suis un peu embrouillée.
On se libère. Et donc, Julien Aitou, vous pouvez rebondir sur ce que Salomé Mandelli avait démarré.
Je n'ai pas suivi ce qu'elle a dit. C'est comme dans notre couple, c'est ça. Non, mais
c'est assez...
Moi, je sais, ce qui me plaît beaucoup, c'est tous les sous-entendus, en fait. Ce qui est vraiment fait mouche, c'est-à-dire que toutes les phrases, elles sont soit premier degré, soit aussi, il y a beaucoup, à interpréter, beaucoup de sous-entendus, mais de choses non dites qui sont quand même ressenties.
Il y a du dit aussi, parce que quand...
Et il y a du cash, voilà.
Il y a du cash quand on dit on s'en fout, qu'est-ce que font... c'est à un moment une réplique, je ne sais pas si c'est vous ou...
Non, c'est Richard.
Ou Xavier Thiam, le personnage de Richard, qui dit on s'en fout.
Mais il n'y a pas de réaction directe, c'est-à-dire qu'on le prend en disant tiens, il a dit quelque chose qui est bizarre, mais comment ça, votre fille est chargée... Donc il y a beaucoup de non-dits quand même, c'est-à-dire dans les réactions. Et c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que si demain, moi je vous dis, vraiment, votre chemise, elle n'est pas terrible là. Vous n'allez peut-être pas répondre par courtoisie, mais quelqu'un qui regarde la situation, vous dites, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il lui a dit ça? Comment il va répondre? Et en fait, le spectateur est au travail, dans le sens qu'il n'est pas posé sur une vanne ou qui fait 1 plus 1 égale rire, quoi. C'est-à-dire qu'il est, il est croustillant de regarder ces quatre personnages. On voit où ils vont aller. Elle a très bien campé les personnages, les situations, le huis clos dans le restaurant. On a tous vécu ces moments de gêne avec des inconnus. Et on se dit, oh là là, mais comment ça va finir? Parce qu'à chaque étape, ça en rajoute un morceau.
Parce que Manon Rony, vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allumez la mèche et ça explose grâce au spectateur aussi qui fait sa part de boulot. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de réaction... Sur des phrases qui sont plutôt provocatrices et pas forcément agréables, c'est le spectateur qui réagit, à la place des personnages, presque. Et
je crois qu'il y a un mot espagnol, j'espère ne pas me tromper, mais qui s'appelle la vergüenza, qui est la honte un peu pour les autres. Et je pense que le public, parfois, il peut ressentir ce truc de « oh là là, non, il n'a pas dit ça ». Évidemment, il y a des silences au début, surtout. Après, plus ils boivent et moins il y en a. Et puis, plus ils se connaissent, mais... Je pense que les silences jouent pas mal et ça, c'est le spectateur qui fait le boulot, effectivement. C'est-à-dire qu'on voit qui c'est qui va relancer quand il y a un temps de gêne parce qu'on mange avec des gens qu'on ne connaît pas, les enfants, pourquoi ils n'arrivent pas? On aurait préféré qu'ils soient là en premier, etc. Et effectivement, là, comme dit Julien, et comme vous dites, le spectateur est actif de cette attente-là.
Alors, il y a plusieurs couches dramaturgiques parce que c'est un spectacle qui également a une progression dramaturgique, à savoir cette question répétée. Quand est-ce que les enfants vont arriver? Parce qu'on sent que si les enfants arrivaient, l'atmosphère se détendrait un peu, peut-être.
Oui. Et puis chacun se réfugierait, peut-être pas Richard, mais... Et il y a aussi, si, dans la dramaturgie, il y a aussi l'idée des deux mamans, Pénélope Perdreau qui est formidable, qui joue une maman qui aimerait bien être un peu plus proche de sa fille, je crois, et Salomé qui joue une maman qui est un peu trop proche de son fils. Et donc, il y a une petite jalousie parce qu'il y en a une qui est au courant et il y en a une qui n'est pas au courant. Et les deux papas, ils s'en fichent un peu, mais les deux mamans, c'est un énorme écart qu'il y a. C'est qu'il y en a une qui a une grande longueur d'avance. Et elles sont très bienveillantes pour le coup, plus que les garçons l'une envers l'autre. Mais il y a cette petite chose entre elles qui fait qu'il y a... que la dramaturgie, elle va un peu dans ce sens-là. Ouais.
Alors, il y a une chose dont vous sortirez. Julien Eto'o.
Oui, non, parce que vous parlez de la famille tout à l'heure, les comédies sur la famille. Et en venant tout à l'heure vous rejoindre ici, je pensais pourquoi on fait des enfants en fait. Et effectivement, on a une image de ce que ça va donner. Comme la chanson de Brassens, Philistin, on projette sur notre progéniture quelque chose. Et quand ça change, quand il y a un élément extérieur qui arrive avec la personne qu'on chérit le plus au monde, notre enfant, et qui n'est pas raccord avec ce qu'on lui a... Là, ça crée des crispations et ça met un grain de sable dans la machine.
Bah, d'autant plus quand il y a un personnage qui a une longueur d'avance, comme vous, Salomé Mondelli, comme le personnage de Laura. Elle est la confidente de son fils et elle sait tout avant. Elle sait
tout.
Que les deux enfants sortent depuis 2 ans ensemble.
Voilà.
Et qu'il y a une autre nouvelle qu'on ne va pas annoncer ici. On va laisser un minimum.
Bah, oui, on a même,
un minimum de suspense. Et
même, ça crée des confrontations dans chaque couple. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une confrontation gauche-droite, du coup, ou riche-pauvre, ou eux contre nous. Et moi aussi, je subis, de la part de ma compagne, des surprises. Et là, c'est pareil. C'est ce qui est formidable dans l'écriture de Manon, c'est les travers humains permanents qu'on a. On est des êtres tellement imparfaits et on veut tellement montrer qu'on est parfait que là, on montre au spectateur, par beaucoup de subtilité, toutes les failles. Quoi. C'est tout simplement ça, en fait, qui est drôle dans cette pièce.
Résultat, Salomé Mondelli, vous vous retrouvez à être un peu la castratrice de ce grand enfant qui est votre mari.
Hein. Oh oui, moi, ça va.
Alors là, ça n'est pas Salomé Mondelli, mais plutôt Manon Rolli.
Non, mais il joue aux jeux vidéo, il fume des pétards, ça va. Et à un moment donné, il faut que quelqu'un fasse le boulot.
Vous avez bien conscience que vous êtes donc la porte-parole de la metteuse en scène et de l'autrice. Mais c'est un peu ça. C'est un rôle de... Le rôle de mère, les enfants n'étant pas là, votre personnage à vous, Laura, il agit un peu comme la mère de son mari.
Ah oui. Ah bah ça, oui. Oui, complètement, oui. Mais oui.
Elle me fait complètement la morale, elle fait la leçon, mais avec toute la subtilité des femmes, là encore, en général, sans montrer qu'elle est la mère. Et des fois, moi, je parle et je prends beaucoup plaisir à jouer ce mec un peu qui va être un peu fanfaron, puis tout d'un coup, va se faire, tout, d'une phrase, remettre... il connaît les limites, comme un enfant qu'on dit « Ah, attention !» Et il sait que là, c'est trop loin. Et c'est génial à jouer. Enfin, tout est prétexte à beaucoup de plaisir à jouer. Et c'est ça, en fait, la comédie que Manon a écrite, c'est le plaisir qu'on a tous les quatre à se retrouver chaque soir pour s'affronter comme ça. Ça dépasse ce que j'appelle l'invisible au théâtre. C'est-à-dire que c'est pas écrit, mais elle a créé une harmonie dans tout ça. Et le casting, est formidable pour ça.
On est ravis d'avoir une autrice de théâtre et une autrice de comédie. Si vous deviez qualifier votre théâtre, Manon Rolli, vous travaillez toujours sur des thématiques familiales, comme celle de Vous permettez.
Alors, c'est ma première comédie. C'est la première fois que j'écris une comédie. Donc non, pas du tout. J'ai écrit une pièce sur les overdoses de Jim Morrison, enfin le dealer de Jim Morrison et Janis Joplin. J'ai écrit sur la mort de George Floyd, sur la guerre d'Espagne. Enfin voilà, j'en ai quelques-unes comme ça. Donc c'est plutôt ma détente là. C'était très agréable de juste se dire je vais pas révolutionner le monde, je vais juste essayer de faire rire les gens avec des trucs qui me font rire moi. J'ai de la chance que ça fait rire mes 4 acteurs aussi et
le public.
Et le public, j'ai de la chance, mais alors vraiment je pouvais pas faire mieux. Je dis bon bah ça, moi ça me fait rire ça. D'ailleurs il y en a des fois ils me disent ça c'est drôle, pourquoi? Je dis c'est pas grave, dis là, moi ça m'amuse.
Julien Eto'o, vous êtes pas étranger à ce théâtre, le Funambule dans lequel ce jeu Vous permettez, c'est votre théâtre?
Oui, je le dirige avec Sandra et Véro, on est deux directeurs, on l'a repris il y a 20 ans. Et effectivement, on est créateur de nos spectacles. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est l'indépendance qu'on a. Et grâce à Manon Rolli, on a pu avoir aussi un texte original. C'est ce qu'on défend beaucoup chez nous, c'est-à-dire trouver une comédie originale à porter, qui moi me plaisait à monter. C'est pas évident. Et effectivement, j'en ai parlé avec Manon, qui a eu, nous a fait le cadeau de nous offrir ce texte. Et je suis hyper fier de le présenter au Funambule et d'apporter de la joie. Je voulais monter une comédie, on monte beaucoup de choses très différentes au Funambule, des drames.
Dont on parle pas mal ici. Hein.
Bah oui, je vous remercie.
C'est un autre théâtre fétiche, le Funambule.
Moi aussi. Non, mais moi, j'ai beaucoup d'amour pour ce théâtre et de le faire ensemble, quelque part, entre copains, presque en famille, on pourrait dire, de le créer chez nous, de le présenter directement du producteur au consommateur, comme j'aime à dire. C'est une vraie joie et de proposer quelque chose. En plus, c'est croustillant en ce moment où c'est compliqué, enfin tout le temps, mais la vie est... Là, il y a beaucoup de joie quand on joue, beaucoup des vagues de rire, ça rit énormément et c'est vraiment libérateur en ce moment de jouer cette pièce et j'espère qu'on va la jouer longtemps au Funambule.
Est-ce que c'est péjoratif de dire qu'il y a ici un rire intelligent ?
Ben non, c'est hyper sympa. Non, c'est cool, mais léger, intelligent, ouais, après... il n'est pas non plus comme intelligent, il n'est pas intellectuel non plus. Hein. Il y a des conneries aussi.
Oui, il y a des choses très simples, mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec vous. Quand je l'ai lu, c'est ça. Je dis, ah bah, c'est très subtil. Enfin, en tout cas, beaucoup de subtilité dans l'humour et on ne va pas du tout dans les facilités. Et même à jouer, si vous voulez, on a tous nos petites techniques de jeu, de facilité. Elles ne nous laissent pas aller là-dedans. On invente quelque chose parce que c'est vraiment une pièce d'acteur. C'est un beau cadeau pour les acteurs.
Une fois de plus, alors là, je vais remettre ma casquette de critique. Si vous voulez assister à une comédie, on l'a dit, intelligente, dont les lignes bougent, où les personnages ne sont pas éternellement figés et où ça flotte et où on est surpris, courez au Funambule. Vous jouez jusqu'à quand ?
Jusqu'à temps qu'il y aura du
2043,
monde.
2043, je crois.
Non, mais on vient de prolonger, là, donc on va certainement... Enfin, voilà, là, c'était prévu jusqu'à fin mars. J'espère qu'on va... Là, c'est le directeur qui parle, mais d'aller jusqu'à la fin de la saison et continuer tant qu'on peut. C'est un vrai tel plaisir à jouer qu'on va continuer le maximum. Mais là, pour l'instant, c'est jusqu'au mois d'avril.
On va vous remercier, Manon Reny. Rappelons que vous êtes l'autrice et metteuse en scène de Vous permettez, que Salomé Mandelli et Xavier Eto, vous êtes deux.
Julien
Eto, pardon.
Je vous en prie.
Vous êtes
deux.
Ils sont mariés.
Deux des comédiens et comédiennes avec Pénélope Perdereau et Xavier Thiam.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Aligre FM qui aujourd'hui parle du trop dit ou pas assez dit, là en l'occurrence votre pièce à vous, Sébastien Valignat, elle parle du non-dit. Elle parle du rapport de la langue et de la politique. Ça s'appelle « L'art d'avoir toujours raison ». Et c'est inspiré de Schopenhauer, ce titre-là. Donnez-moi un peu le rapport entre Schopenhauer, à part le titre, entre Schopenhauer et votre pièce.
Alors c'est vrai qu'il y a une grande tradition au théâtre de piquer les titres des autres, quoi. Je veux dire, quand Racine écrit son Phèdre, il a déjà volé le titre à quelqu'un d'autre. Et Schopenhauer a écrit un livre sur la manipulation politique qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison ». Et vu qu'on voulait parler de ça et que c'était un super titre, on lui a piqué. Et puis on a volé aussi deux ou trois trucs qu'il décrit à l'intérieur du spectacle, des sophismes, que lui-même avait d'ailleurs déjà piqué à Aristote, etc.
On va commencer en parlant de votre troupe, la compagnie Cassandre. Vous la fondez en 2011 et vous menez un travail de recherche artistique en lien avec les sciences sociales, la politique et l'actualité. On va expliquer en quoi consiste ce spectacle. En fait, c'est une conférence, hein, une fausse conférence qui est donnée aux élus que nous sommes. Le public du théâtre Tristan Bernard est censé être composé d'élus, ou réélus, hein, du moins on l'espère. Et on est là pour assister à la conférence que donne deux brillants conférenciers accompagnés de leur PowerPoint qui vont nous montrer ce qu'il faut faire en politique. L'un de ces personnages, c'est vous, Maya Le Fourne,
oui.
Avec vos lunettes et votre air sévère. Maya, il faut vous rapprocher juste un tout petit peu du
bien.
Micro. Avec votre air sévère, vous allez nous donner des...
C'est Jane Corrida qui donne des leçons. C'est le personnage, Jane Corrida. Voilà. Oui, qui donne des leçons. Enfin, oui. Non, qui donne des leçons, qui essaie de...
Jane Corrida, votre personnage.
Mon personnage, oui, voilà. Et Bruno Fitou, qui sont deux conférenciers et qui essaient effectivement de donner plein d'outils pour devenir le meilleur candidat et remporter absolument les élections. Tout est... Voilà.
Emporté par mon enthousiasme, j'ai oublié une petite chose, c'est d'écouter la bande-annonce. Je vous propose qu'on vous écoute tous les deux... 54 secondes de concentré de votre spectacle.
Comment accéder au pouvoir dans un État démocratique ?
À cette question, il ne semble y avoir que deux réponses possibles : remporter une élection ou faire un coup d'État.
Pour accéder à des fonctions importantes, il est nécessaire que vous ne soyez jamais mis en défaut.
Tous les grands gagnants des 50 dernières années ont prétendu qu'ils incarnaient le changement.
Vous faites de la politique. Si vous tendez la joue droite, vous allez vous en prendre une.
C'est mathémagique ! Pour faire disparaître le conflit, vous pouvez avoir recours à des euphémismes. Euphémisme, c'est un mot qu'on va choisir parce qu'il va masquer le réel.
Moi, ma belle-sœur, elle dit que son fils, il est HPI.
Non, alors là, c'est pas tout à fait pareil.
Il est pas HPI, son fils. Il est chiant.
Vous n'aurez pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression.
Vous devez être le meilleur candidat. Et c'est à cela que nous allons vous préparer ce soir.
Ce qui est important pour votre image est important pour vos chiffrages.
On l'a compris, c'est une comédie, on rit beaucoup, mais c'est aussi, c'est plus inquiétant quand on apprend que tout ça, c'est Sébastien Valignia, c'est absolument exact. Tout ce qui est dans votre spectacle, qui est composé de sophismes, d'aberrations, est issu de véritables textes.
C'est ça en fait, la démarche générale de la compagnie, c'est on part d'une question contemporaine, pourquoi la crise des subprimes a eu lieu, à quoi ça sert de commémorer la Première Guerre mondiale, et on prend appui sur des travaux de chercheurs en sciences humaines et sociales pour voir ce qu'ils ont dit, comment ils ont répondu à ces questions-là, s'ils ont des éléments de réponse. Et après, on cherche une forme théâtrale pour essayer de transmettre ce qu'on a compris dans les livres de sciences humaines en travaillant avec des auteurs et des autrices. Et là, le point de départ de ce spectacle, c'est la question de la propagande. Quand on entend le mot propagande, souvent, on pense, je sais pas, à la Russie soviétique, à l'Allemagne nazie, peut-être à la Russie de Poutine, mais on oublie souvent que la propagande a été inventée dans les systèmes démocratiques, elle est fille de démocratie, et que, d'après les spécialistes, on n'a jamais été soumis à autant de messages de propagande qu'aujourd'hui. Ne serait-ce que la publicité, c'est 1200 messages par jour qu'on... Et il y a un intellectuel américain qui s'appelle Noam Chomsky qui disait si on veut avoir des démocraties qui fonctionnent un peu mieux, comme il y a autant de propagande, on devrait donner des petits cours d'autodéfense intellectuelle à l'école pour apprendre à se protéger. Et le point de départ du spectacle, c'était ça. À quoi ça pourrait ressembler un petit cours d'autodéfense intellectuelle au théâtre?
Si j'ai bien lu, la société actuelle vous effraie, vous, en tant que citoyen, en tant qu'auteur aussi, cette société où, au lieu du message, on a un texte vide de sens. Et c'est ça, c'est en réponse à ça que vous souhaitiez écrire ce texte.
Alors parfois c'est vide de sens, parfois c'est pas vide de sens, ça contient simplement des éléments qui sont faux, donc ils contiennent des éléments qui sont faux. Donc tout ça, c'est vrai que c'est inquiétant parce que... En fait, la question de la manipulation, elle est centrale sur la question démocratique. Si jamais on n'a pas des outils pour se mettre d'accord sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, alors on prend des mauvaises décisions. Si on prend un exemple très concret, le Rassemblement national dit sur tous les plateaux de télévision que l'immigration coûte cher, et les scientifiques ont prouvé que l'immigration augmente le niveau de vie par habitant. Donc ce qu'il faudrait, c'est débunker ça au maximum, et chaque fois qu'un invité du Rassemblement national à ce propos-là, quelqu'un lui rappelle que non, ça rapporte de l'argent. Et donc il faudrait trouver d'autres arguments pour convaincre de voter pour eux, en disant on veut moins d'immigration parce qu'on veut des gens qui nous ressemblent, etc. Donc ça me semble extrêmement important, et je reviens sur la démarche, sur le spectacle, parce que ce petit cours d'autodéfense intellectuelle, le risque, c'était d'en faire quelque chose de trop didactique. Et ce qu'on a imaginé avec Logan de Carvalho, qui est mon co-auteur, c'est faire un pas de côté. Et plutôt que de faire un cours d'autodéfense intellectuelle où on apprendrait comment se protéger contre toutes les manipulations, ce qui pourrait être un petit peu fastidieux, on a voulu faire ce pas de côté, d'imaginer, au contraire, une conférence pour apprendre à manipuler.
Alors, du coup, vous faites venir deux experts du GIRAF. Qu'est-ce que c'est que le GIRAF ?
Le groupe interdisciplinaire de recherche pour l'accession aux fonctions électorales.
Alors, il y a Jane que vous incarnez, et il y a Bruno. Et vous nous donnez des cours à coup de PowerPoint, hein, c'est ça ?
Oui.
Alors, de manière particulièrement savante, avec une certaine interaction avec le public ?
Tout à fait. Oui, parce qu'on les interpelle, puisque ce sont nos élèves, entre guillemets.
Voilà. Alors, c'est structuré et chapitré comme un exposé de Sciences Po. Hein. on va citer deux, trois chapitres. Comment avoir un bon programme ? Comment parler quand on n'a rien à dire et comment réussir sa communication. Alors, je vais m'arrêter 30 secondes sur ce chapitre-là qui est absolument hilarant. Vous êtes allé chercher des affiches des années 80, le matériel de...
2017
Ça va jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un défilé d'horreur graphique et de kitsch électoral.
Alors oui, c'est un moment un petit peu plus léger dans le spectacle. Il y a des moments plus ou moins légers. C'est celui-là où on s'est amusé à fouiller quand on voulait parler de la communication politique, de qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc on avait plusieurs pistes. Et comme le spectacle était trop dense, on avait besoin d'un moment un peu soupape où vraiment on se marre. Et donc on a décidé de montrer les affiches qui nous semblaient les plus ratées de ce qu'on avait pu trouver. Et donc on a un florilège d'affiches, en effet, où on voit des gens qui ont des peaux de bête, qui sont en costume folklorique, qui sont habillés.
Ce sont de vraies affiches.
Ce sont de vraies affiches. Si vous regardez par exemple la candidate Reconquête au municipal de Brest, par exemple actuellement, elle fait une campagne, ou en tout cas pour avoir des financements, elle est en costume de lycra de Wonder Woman. Alors, on peut trouver ça pertinent ou pas. En tout cas, elle vient pour sauver la ville, donc elle a voulu se mettre en scène là-dedans, et nous, ça, on trouve ça plutôt amusant.
Maya Nefourne, loin d'être un exposé statique, vous-même, à savoir Jane et le personnage de Bruno, vous avez une véritable existence, vous avez une personnalité qui, de temps en temps, s'échappe du côté rigoureux et scientifique. Hein. Vous n'êtes pas que des scientifiques du GIRAF.
Ah, ils sont un petit peu ridicules, quand même. Parfois, on nous compare à des clowns. Le clown Auguste, c'est... Voilà. Ils sont quand même un petit peu... Comment dire ? Ils sont à la fois sérieux. Leur discours est assez sérieux. Mais ils deviennent un petit peu fous. Par exemple, mon personnage... Quand elle parle de Macron, par exemple.
Elle est Fana. Hein.
Il se passe quelque chose en elle, ouais.
Parce que justement, Macron est la quintessence de ce glissement du discours. Un discours consensuel dont on enlève toutes les aspérités pour ne pas provoquer un consensus, en fait.
Disons qu'en tout cas, on cite beaucoup Emmanuel Macron parce qu'il a quand même réussi à arriver au pouvoir. Donc, c'est signe qu'il a été le meilleur candidat. C'est ça, notre ligne. On s'est beaucoup posé la question de quelle était la ligne politique que pouvaient avoir les personnages et tout ça. Et en fait, comme c'est des gens qui apprennent comment gagner, ils sont simplement fans des gagnants. Et donc, le premier gagnant actuel, à l'heure actuelle, c'est Emmanuel Macron. Donc, on a en effet Jane qui est absolument en admiration devant toutes ces techniques et qui a prouvé, non pas uniquement par du discours creux, mais aussi des techniques qu'on connaît bien, la triangulation, par exemple, qui consiste à aller chercher des voix sur sa gauche et sur sa droite. Et on se rappelle de la première campagne d'Emmanuel Macron. C'était le candidat du « en même temps », du « à la fois », qui allait prendre le meilleur de la droite, le meilleur de la gauche et le meilleur du centre. Donc, c'est quand même... Il s'est fait spécialiste de ça. Et il y a des linguistes qui ont analysé son discours, qui ont remarqué les mots qu'il évitait. Donc, il évite massivement tout un tas de mots qui vont évoquer le conflit, par exemple. Donc, on cite toutes ces stratégies qui lui ont permis, entre autres, d'arriver au pouvoir.
Il y a une seule chose qui est absente de ce discours, ce sont les arguments.
Alors, en effet, il y a quand même, heureusement, dans la classe politique des arguments. Nous, on est là pour dénoncer les techniques de manipulation. Donc, à l'intérieur du spectacle, on n'est pas en train de dire « Regardez, il a proposé ça et ça, il a fait ça et ça, c'était super ou c'était pas bien. » Puis, c'est pas du tout notre rôle, d'ailleurs, d'avoir un avis sur le bien ou le mal. La ligne du spectacle, c'est de dire « Parfois, nos responsables politiques nous prennent un peu pour des buses. Ils apprennent à nous parler, il faudrait qu'on apprenne à les écouter. Parce que si on apprenait tous à les écouter, on serait peut-être un petit peu moins avare globalement.
On parle de l'art d'avoir toujours raison. Dans, Dans l'ouvrage éponyme de Schopenhauer, il explique à quel point on a des réticences à remettre en cause ses propres opinions.
Oui, en effet.
Et donc votre spectacle amène à montrer qu'il ne faut surtout pas aller titiller le futur électeur dans ses opinions. Il faut le conforter en lui donnant l'impression, avec un discours complètement généralisé, qu'on est d'accord avec lui.
Je ne suis pas sûr qu'on fasse ça, parce que d'ailleurs, on le voit bien, là, en ce moment, tous les candidats à l'élection présidentielle pensent qu'ils vont remporter l'élection en allant chercher les abstentionnistes, avec cette conviction un peu douteuse, il me semble, que les abstentionnistes, s'ils votaient, ils voteraient pour eux. Ce qui me semble être un biais assez fort, parce que ce n'est pas du tout dit, on ne sait pas ce que votent les abstentionnistes, par définition, ils ne votent pas. Donc rien ne dit que si les abstentionnistes allaient voter, on n'aurait pas un Rassemblement National qui aurait le double de voix, ou alors peut-être n'importe quel autre parti qui aurait le double de voix. Donc j'ai l'impression qu'au contraire, il y a une volonté de convaincre, mais après, le problème c'est que dès qu'on pose un argument, si on dit qu'on veut augmenter les impôts ou baisser les impôts, ben on va gagner ou perdre une fraction de l'électorat qui va être d'accord avec nous. Donc il y a parfois des stratégies qui consistent à dire qu'on va faire, on va créer un monde plus juste. Et quand on dit ça, bah, tout le monde est d'accord avec un monde plus juste, parce que personne ne veut un monde plus injuste. Donc on va utiliser ces techniques qu'on appelle des fois un peu globalement langue de bois, même si nous on n'utilise pas ce mot-là parce que les linguistes ne l'utilisent pas, parce que c'est tout le temps mal défini, la langue de bois c'est toujours chez l'autre. Hein. Mais en tout cas, ils utilisent des concepts mobilisateurs pour permettre de... Évidemment que je suis d'accord avec ce candidat qui veut un monde plus juste, parce que c'est une super idée.
Aujourd'hui, dans Radio Scénique sur Allegre FM 93.1, on parle du trop dit et du non dit. Et on est avec Sébastien Valignat, co-auteur et metteur en scène de l'art d'avoir toujours raison, et Maya Le Fourne, qui incarne Jen dans la même pièce.
Au départ, un homme, une rose à la main. Elle cabache au placard la Bastille, la pluie qui vient. Au départ, la guillotine au panier. Il aurait dit quelle histoire, 5e semaine de congé. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis la rigueur, et puis les mots qui blessent, les tensions. Moi c'est moi et lui c'est lui, et la cohabitation. Au départ, c'est toujours le mois de mai. Écharpe rouge et chapeau noir, la lettre à tous les Français. Au départ, des accords à Matignon, RMI, Michel Rocard, les affiches Génération. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis au bord du canal, un 1er mai sans raison, nos amours se tirent une balle et la cohabitation. Au départ, odeur de gaz et de poudre. Les matraques à Saint-Bernard, j'ai décidé de dissoudre. Au départ, c'est tout beau, c'est tout pluriel. 35 heures et ça repart, c'est les mariages arc-en-ciel.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Allegre FM.
Et oui, le théâtre sur Allegre FM qui parle aujourd'hui du non-dit et du trop-dit. Mes invités dans cette deuxième partie, c'est l'auteur et metteur en scène Sébastien Valignat et sa comédienne, l'un des deux comédiens-comédiennes qui sont sur scène, Maya Le Fourne, qui avec David Guez incarne ce duo de savants du Girafe, un groupe, rappelez-moi Maya.
Groupe interdisciplinaire de recherche sur l'accession aux fonctions électorales.
Alors c'est un spectacle qui fait penser un petit peu au surréalisme. Vous allez piocher dans le surréalisme, dans le dadaïsme aussi un tout petit peu.
Alors, pas du tout.
Non.
Mais je veux bien savoir pourquoi, parce que du coup, ça m'intéresse. Mais dans quel sens vous dites
ça ? Une espèce de démarche un peu foutraque avec une apparence de sérieux et ça dérive.
Alors oui, alors c'est ça. En fait, la question, c'est comment on est en train de faire une conférence et qu'on est en train, malgré tout, d'expliquer des concepts de sciences humaines et sociales.
Il y a un aspect officiel. Hein. Il y a les deux pupitres, il y a ces deux
formellement, ça ressemble à une conférence.
Voilà, c'est ça. Et puis, ils sont sérieux, ils ont un badge, ils nous accueillent à l'entrée.
Mais pour qu'on accepte ça en tant que public et qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de nous donner une leçon politique ou un truc comme ça, c'est absolument nécessaire que les personnages soient plus bas que nous. Parce que sinon, il y a une position de surplomb qui est insupportable. Donc en fait, la question, c'est les gens qui sont en train de nous expliquer comment gagner l'élection sont plus ou moins des clowns. Je mets des guillemets à clowns parce que quand on dit clown, on imagine des fois le nez rouge, etc. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est des gens qui, a priori, sont médiocres, plus bas que nous. Et donc, on va regarder ces gens-là se débattre, essayer de nous expliquer des trucs. Et parce qu'à un moment, on a remarqué qu'ils étaient un peu ridicules, qu'ils digressaient, qu'ils n'étaient pas dans les clous, on accepte plus facilement qu'ils nous fassent la leçon.
Sébastien Valignas, je vous interromps juste une toute petite seconde. Je vais vous faire écouter quelqu'un qui n'est pas un clown. Il est sérieux. La preuve, il était ministre.
L'école, c'est avant tout le lieu de l'éducation, de l'apprentissage, de l'émancipation de notre jeunesse. L'école n'est pas un foyer infectieux. Par contre, l'école, comme tous les lieux collectifs, est un lieu dans lequel le virus peut circuler. L'école n'est pas un foyer infectieux. Par contre, l'école, comme tous les lieux collectifs, est un lieu dans lequel le virus peut circuler.
C'est une tellement belle phrase qu'on l'a mise en musique. Merci à Pierre Demkoff. Répétez-la, Sébastien Lavigna. C'est tellement beau.
C'est Olivier Véran. C'est Olivier Véran qui a dit ça à l'Assemblée nationale. Donc on était en 2021, donc encore en pleine crise Covid. Et pour rassurer les parents qui avaient peur d'envoyer leurs enfants à l'école et les enseignants qui avaient peur que leur lieu de travail devienne des foyers infectieux, a utilisé ce qu'on appelle un euphémisme en politique. Donc c'est l'idée d'atténuer le réel. Par exemple, on ne dit pas qu'on a un ministère de la guerre, on a un ministère des armées, puis un ministère de la défense. Et puis on n'envoie pas des missiles, on fait des frappes chirurgicales, il n'y a pas des civils tués, c'est des dommages collatéraux. C'est classique en politique d'essayer d'atténuer le réel pour pas qu'il paraisse trop violent. Et donc là, il va dire cette phrase-là un peu malheureuse hein, à l'Assemblée nationale. Alors il y a un petit insert au milieu, mais qui ne change rien au sens. Pour rassurer, normalement, l'astuce, c'est de dire... Et on ne dit pas ce n'est pas des pertes civiles, ce sont des dommages collatéraux parce que tout le monde voit qu'on a perdu les civils. Et là, malheureusement, il commet un impair. Donc, il met les deux bouts dans la phrase. Donc, on voit bien que c'est un euphémisme. Et donc, la stratégie d'Olivier Véran n'a pas complètement fonctionné sur ce moment-là. Quoi.
Parce que Maya Lefond, vous qui incarnez Jane, le spectacle, il en est plein de ces citations. Hein. Plein d'exemples concrets piochés dans la politique contemporaine.
Tous les jours. Bah oui, mais c'est ce qui plaît beaucoup aussi au public. C'est d'un coup de se dire, ah bah ça je l'ai entendu, effectivement, et je ne l'ai pas compris. Mais c'est vrai qu'on se surprend. Par exemple, la pente glissante, non, si, c'est la pente glissante de Nicolas Sarkozy, est absolument incroyable. On se dit, on l'a entendu, on n'a pas réalisé à quel point c'était incroyablement, à la fois absurde, en fait.
Alors, je voudrais citer un exercice auquel vous soumettez sur le plateau. Vous nous proposez un texte qui est bourré de mots non consensuels et vous les remplacez un par un par des mots consensuels, c'est-à-dire qu'au lieu de syndicats, on va parler de partenaires sociaux. Au lieu de... Qu'est-ce qu'il y a encore comme...
Un mouvement de protestation, on va le requalifier en prise d'otage, d'une violence inouïe, par exemple. Donc comme ça, ça va permettre de disqualifier le mouvement. Donc en fait, c'est comment... Des cours de communication politique.
C'est dynamique. Alors il faut comprendre, on a le texte originel. Et petit à petit, nos deux conférenciers, puisque nous sommes des élus cherchant à être réélus, nos deux conférenciers vont petit à petit... vider, comme aspirer dans un trou noir le vocabulaire qui faisait sens pour nous proposer un texte insipide, sans saveur, sans presque de signification.
Je ne crois pas qu'ils fassent pas sens le texte auquel ils arrivent, mais en tout cas, ils arrivent à l'orienter d'une autre manière. C'est-à-dire que partant d'un texte qui paraît être un texte de bonne foi, au contraire d'une personnalité politique qui veut défendre sa réforme, d'un seul coup, il va y avoir d'autres stratégies, des stratégies de disqualification de l'adversaire. Donc les gens qui sont dans la rue, d'ailleurs, ils ne sont pas si nombreux que ça, ou alors en fait, il y en a beaucoup plus qui ne sont pas dans la rue. Et puis finalement, c'est des gens qui sont là pour casser, ils ne sont pas là contre la réforme, ou alors c'est parce qu'ils ne l'ont pas compris, etc. C'est des stratégies que quand quand on manifeste, des fois, eh ben, on est un petit peu agacé de voir les politiques qui viennent à la télé dire on doit faire preuve de plus de pédagogie en réponse à ça. Et c'est pas une question de pédagogie, j'ai bien compris ce que vous proposez, je suis contre, c'est pour ça que je suis dans la rue. Donc on se fait prendre pour un imbécile quand quelqu'un nous dit on doit faire preuve de plus de pédagogie. Donc c'est insupportable. Et cette sensation insupportable, quel que soit son bord politique d'ailleurs, on n'aime pas être pris pour des cons, que ce soit par notre bord politique ou par l'autre, et donc là, on va le faire un petit peu collectivement. Donc en effet, on s'arrête sur certaines phrases, parce que des fois, on sait bien que certains hommes politiques ou femmes politiques, parfois, nous prennent pour des imbéciles, mais si on s'arrête collectivement sur une phrase, qu'on la décortique et qu'on se moque d'eux, bah, c'est un peu empouvoirant, quoi. C'est que d'un seul coup, chacun son tour.
Sébastien Valigna, finalement, on n'écoute pas ce que disent les hommes politiques. On se rend compte en regardant votre spectacle, qu'il y a une véritable analyse sémantique du discours et que là, vraiment, le sens et la manipulation à l'œuvre nous sautent aux yeux.
Alors, c'est vrai que ça va trop vite, mais des fois, on le voit. Quand Emmanuel Macron parlait de son application Stop Covid et qu'il dit « je ne dirais pas que c'est un échec, simplement ça n'a pas marché », tout le monde l'a vu, tout le monde s'est marré de ce truc et c'est devenu un mème dans les bureaux. Et quand on a loupé un truc, je ne dirais pas que c'est un échec, ça n'a pas marché, etc. Mais parfois, c'est bien déguisé, c'est quand même des gens qui sont extrêmement compétents, qui sont... pour certains cultivés, ou en tout cas qui ont une maîtrise de la langue et un entraînement à la langue qui est très, très fort, et nous, on l'a pas. Et donc, ils sont meilleurs que nous, et donc, eh ben, on ne voit pas passer le truc. Mais si on s'arrête, et que eh ben, du coup, ça permet de rire, quoi.
Ce qui est important de dire à cet endroit où on est de notre échange, c'est que ce n'est pas tous pourris, hein. C'est surtout pas ça. C'est l'analyse d'un discours, et bah, vous nous donnez des éléments et des armes pour comprendre ce qui nous est dit. Au-delà du sens.
Il y a des fois des critiques qui me sont faites. Les gens disent « votre spectacle disqualifie les politiques et on n'a pas besoin de ça face aux menaces autoritaires ». Moi, je pense exactement le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos démocraties représentatives, aussi imparfaites qu'elles soient, elles sont menacées par tout un tas de totalitarismes. À commencer par la Russie, la Chine, qui ont envie qu'on ne soit plus des démocraties et qui mettent beaucoup d'argent et des dépenses pour qu'on ne le soit plus. Et la seule façon de défendre notre système démocratique, il me semble, c'est que c'est un système qui supporte la critique et qui le critique. Si jamais on continue à dire « mais tout va très bien dans notre système », alors que les gens voient bien que tout ne va pas très bien, alors qu'est-ce qu'on aura à perdre ? Enfin, on n'a rien à perdre, puisque ce système, tout le monde dit que c'est bien et c'est faux. Alors que si on dit « bon, il y a des trucs à améliorer », alors ben, du coup, si on se permet la critique, alors du coup, on va vouloir le défendre, parce que quand on aura un régime totalitaire, ben, on ne pourra pas le critiquer.
Maya Lefourme, comment est-ce qu'on s'empare du personnage de Jane ? C'est pas évident, parce que c'est un texte très, voilà, on l'a dit, c'est un texte savant, un texte très touffu, un texte avec beaucoup, beaucoup de messages. Comment est-ce qu'on arrive à faire exister le personnage derrière son pupitre, derrière ses lunettes et son air savant ?
Eh bien, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Et en fait, ben nous en plus c'est une reprise de rôle, parce que la première équipe c'est Sébastien qui le jouait avec Adeline Denamara, et donc nous avec David Guez on a repris le rôle pour le théâtre Tristan Bernard, et donc ça a été assez rapide, on a eu peu de temps de répétition, et moi j'avais vu le spectacle que j'avais adoré, et c'est vrai que ben, ça a l'air tellement simple quand on les voyait faire, et quand on travaille en même temps, et en fait c'est ça, c'est toute la difficulté d'avoir l'air très à l'aise, de dominer son sujet entre guillemets voilà, et d'être légèrement prétentieuse voilà, alors et en peu de temps voilà,
et d'avoir de la complicité avec votre co-animateur.
Ouais, alors ça par contre ça a été assez immédiat, voilà, on a passé notre audition ensemble et on s'est tout de suite bien entendu voilà, bon, ça c'est vrai que c'était un plaisir d'avoir confiance dans son partenaire, voilà, et après voilà, maintenant c'est aussi tout le travail qu'on continue à faire, hein, justement d'être de plus en plus à l'aise avec le texte, avec être très souple, très vif, et à la fois d'avoir l'air autoritaire. Et que voilà, et puis d'être sûr de moi, ce qui n'était pas le cas en réalité.
Alors le point de vue de l'auteur metteur en scène Sébastien Valigna.
Ben c'est que la difficulté, c'est que pour pas que ça ressemble complètement à une conférence et à du théâtre, et ben faut beaucoup de jeux. C'est-à-dire qu'il faut plein de ce qu'on appelle des micro-virages. C'est-à-dire dans une même phrase, il va y avoir 4-5 notes pour les comédiens, donc ça devient des trucs qui sont un peu qui rendent un peu fous les acteurs. Et quand on le regarde, ça a l'air simple. Et en fait, c'est beaucoup de ressorts pour créer des dynamiques, des effets de présent et pas être en train de je sais pas de comment dire ça, de faire une conférence, mais bien de faire du théâtre. Et pour ça, il faut qu'il y ait beaucoup de sous-couches pour les actrices.
On avait reçu ici Régis Vlacos qui incarnait un Chirac plus vrai que nature. Est-ce que la politique, c'est un champ intéressant pour le théâtre ? Je veux parler de la politique politicienne, c'est-à-dire la démonstration du discours politique ou la représentation des hommes politiques. Est-ce que c'est un champ qu'on explore avec plaisir ?
En tout cas, moi, la quasi-totalité de mes spectacles sont plus ou moins en lien avec la question démocratique. Donc, c'est un fil rouge qui est tiré depuis que je fais des spectacles parce que je la trouve centrale. Alors, ça prend différentes formes. Là, on est explicitement sur le discours politique. La prochaine création de la compagnie parlera aussi de la question démocratique.
Justement, parlons-en. On est à 2 mois d'une élection et à 1 an d'une élection. Votre pièce, elle s'appelle 2027, c'est ça ?
Alors, la pièce s'appelle 5e République, on n'a pas trouvé mieux. Voilà. Et donc, c'est un spectacle qui va parler de... pour faire court, de cet étrange paradoxe qui fait quand on demande aux gens dans quel régime politique on est, les gens répondent assez spontanément qu'on est en démocratie, et si on leur demande s'ils ont l'impression d'avoir le pouvoir, ils répondent que non. Globalement, c'est un peu ça. Et donc, on a voulu réfléchir à ce paradoxe, à la fois à un niveau intime, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe chez nous, les uns les autres, comment ça se fait que les élections sont des périodes où on peut s'engueuler très fort avec des gens avec qui, pourtant, on est politiquement d'accord, et prendre plus de recul, à la fois sur des perspectives on va dire historique, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on élit le président au suffrage universel direct, et puis des perspectives encore plus grandes de sciences politiques, que disent les politistes sur notre système démocratique. Est-ce que démocratie est vraiment le mot qui convient? Bah, pour beaucoup de politistes, malheureusement non, c'est pas ça qu'il faudrait dire.
Alors on va continuer à suivre votre travail. Sébastien Valignat, rappelons qu'avec Maya Lefourne, vous nous parliez aujourd'hui de l'art d'avoir toujours raison, qui est au théâtre Tristan Bernard. Fin de ce numéro 26 de Radio Scénique, votre magazine de la création théâtrale sur Allegre FM. On vous a parlé aujourd'hui de deux spectacles qu'on a vraiment, vraiment beaucoup aimés. Ils traitent tous deux du dire ou ne pas dire. Merci à tous nos invités. Allez voir leurs deux spectacles. C'est une chaude recommandation de toute l'équipe de Radio Scénique. Merci donc à Manon Rony, Julien Eto et Salomé Mandelli. Ils et elles sont respectivement autrices, metteuses en scène, comédiens et comédiennes dans la comédie très réussie que vous pouvez voir au Funambule. Ça s'appelle Vous permettez, c'est une explosive réunion entre deux belles familles que rien ne réunit, oh, quoique. Pour l'art d'avoir toujours raison présenté au théâtre Tristan Bernard, nous recevions le co-auteur et metteur en scène Sébastien Lavignat et la comédienne Maya Lefourme. Précipitez-vous pour assister à cette sorte de conférence menée de manière hilarante par deux pseudo-chercheurs du GIRAF. Comme d'habitude, ma petite équipe m'a aidé à préparer et réaliser cette nouvelle édition de Radio Scénique. Merci infiniment à Pierre Demkoff qui m'a assisté, qui a assuré la programmation musicale. À la technique aujourd'hui, il y avait Enrico Mastroduran. Grazie mille et merci encore. Vous retrouverez cette émission d'ici quelques jours sur le site d'Allegre FM, allegrefm.org, rubrique Nos émissions, puis Radio Scénique. On se retrouve dans 2 semaines sur Allegre à 10h et en direct, on parlera comédie musicale. D'ici là, allez au théâtre, c'est là qu'est la vie. La vie, elle est aussi au cinéma, bien sûr, et c'est Bernard Payan et son Vive le cinéma que nous retrouverons dans quelques petites minutes à 11h.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.